Le journal. Bonsoir Frédéric Barrère.
Bonsoir et bienvenue dans cette édition des 19h. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information dans l'actualité ce soir. Un 1er mai à Paris, marqué par de nombreux affrontements avec les forces de l'ordre en marge du cortège. Vitrines cassées, pompiers agressés. Gérald Darmanin dénonce les violences inacceptables de la part de casseurs. 29 personnes ont été interpellées, indique le ministre de l'Intérieur. Jean-Luc Mélenchon condamne des violences parasites. Le leader de la France Insoumise qui, avant le départ du défilé, s'est montré confiant sur un accord à gauche pour les législatives.
Le programme sera un programme partagé, un programme de gouvernement, parce que c'est pas un congrès qu'on est en train de faire, c'est la lutte pour le pouvoir.
L'actualité à l'étranger, en Ukraine, les évacuations de civils se poursuivent à Mariupol. Une centaine de personnes retranchées dans l'usine d'Azovstal a pu fuir cet après-midi. Et à Irpin, au nord du pays, la ville réalise le cauchemar vécu par la population lors de l'invasion russe. Et puis, on reviendra sur la mort de Régine aujourd'hui, à l'âge de 92 ans, avec un hommage à la chanteuse culte de la Grande Zoa. La page sport de ce journal, avec au menu du football, et les Girondins de Bordeaux viennent de s'incliner face à Nice, 1-0 pour les Girondins de Bordeaux, et ce match perdu et hypothèque le maintien des Girondins de Bordeaux en Ligue 1. On reviendra également sur l'équipe de France de rugby féminine qui a le regard tourné vers la Coupe du Monde. Notre rendez-vous du dimanche 19h, c'est mon actu Sandrine Houdin avec Raymond qui prépare les commémorations du 8 mai 45. La météo, ciel gris et averse, Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition. À 19h30, les petits bateaux Noël Bréham.
Je m'appelle Juliette, j'ai 7 ans et demi et j'aimerais savoir si les éléphants boivent par leur trompe. Au revoir.
Les petits bateaux après ce journal.
France Inter.
Et lors de ce 1er mai à Paris, la politique a d'abord pris le pas sur les revendications dans le cortège avec les négociations sur l'union des partis de gauche pour les législatives de juin prochain. Ça avance, a affirmé le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, donne même une date, le 3 mai prochain, pour une nouvelle union populaire à la mémoire du Front populaire de 1936. Pour Jean-Luc Mélenchon, l'accord à gauche, notamment avec les socialistes, semble sur le point d'être conclu. Place de la République, lieu de départ du cortège, Julie Droit.
Nous sommes à quelques millimètres d'un accord. Voilà ce qu'a déclaré Jean-Luc Mélenchon devant les militants. Et pour rassurer les partis encore dans les négociations, le chef de file des Insoumis a rappelé quelques points d'accord.
Tous ceux qui participent auront un groupe. Tout le monde aura sa propre association de financement. Le programme sera un programme partagé, un programme de gouvernement. Parce que c'est pas un congrès qu'on est en train de faire, c'est la lutte pour le pouvoir.
Sans oublier une nouvelle main tendue aux communistes qui ont décidé de sortir des discussions pour le moment.
Cette formule les emprunte au manifeste communiste. Nous n'avons pas d'intérêt distant. Le sujet, c'est de savoir si oui ou non, on se donne pour objectif la victoire.
Des précisions qui redonnent de l'espoir aux militants et les filles en vue des législatives.
Là, on a l'impression que vraiment, ils y travaillent de manière constructive et on espère bien que les autres partis PS, PC et Verts vont comprendre que c'est l'intérêt des gens qui compte avant l'intérêt des politiques.
Du côté des militants écolos, on a en tout cas bien conscience que l'union fait la force.
C'est indispensable de se mettre avec la force qui a le mieux réussi les élections présidentielles. Ce qui est le plus important, c'est qu'il y a un véritable contre-pouvoir dans ce pays, quoi.
Enfin, signe que cela avance bien aussi avec les socialistes, Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure, le patron du PS, ont échangé une poignée de main chaleureuse durant ce défilé.
Julie Drouin. Et puis en marge donc de ce défilé parisien, de nombreux accrochages ont opposé les forces de l'ordre à des groupes de manifestants. Plusieurs dégradations de la part de casseurs ont été constatées. Feu allumé sur des poubelles, des scooters, des voitures. Une façade d'agence immobilière a également été incendiée. Des scènes de pillage dans certains magasins ont eu lieu. Des pompiers ont été pris à partie, notamment un sapeur-pompier qui tentait d'éteindre un incendie de palette qui a été frappé et agressé par une femme, ce qui a suscité l'indignation des autorités. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dénonce ce soir des violences inacceptables de la part des casseurs. Il indique également que 45 personnes ont été interpellées.
Il est évident qu'une partie de l'ultra-gauche s'organise dans notre pays depuis plusieurs années, avec la complicité d'ailleurs de certains appels à la violence, n'ayons pas peur des mots. Et aujourd'hui, j'espère, la justice aura l'occasion de condamner fortement ces personnes et de pouvoir avoir les moyens davantage encore de nous renseigner sur ces personnes qui parfois sont françaises, parfois sont étrangères. et nous constatons sur le territoire de la République, notamment dans les manifestations parisiennes, des gens qui viennent de l'étranger, se donnant rendez-vous pour pouvoir casser du policier ou casser les institutions de la République.
Et la femme qui a agressé un sapeur-pompier fait partie des 45 personnes interpellées. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, lors d'un point de presse à la préfecture de police de Paris. Et puis Jean-Luc Mélenchon, sur Twitter, condamne de son côté des violences parasites qui servent, écrit-il, la propagande de nos pires adversaires. Un 1er mai entre présidentielle et législative, teinté de revendications politiques avec des messages dans les défilés centrés sur le pouvoir d'achat, les retraites et les salaires. À Paris, 21 000 personnes ont défilé lors de ce 1er mai en forme de rendez-vous social. Dans le cortège, Marie, elle est enseignante, elle répond à Fabien Cazot.
On est juste après le deuxième tour des présidentielles avec un président réélu qui a fait des annonces de casse sociale, particulier sur la réforme des retraites et l'allongement de la durée du travail jusqu'à 65 ans. Moi, je m'y oppose. Et puis, il y a les questions de pouvoir d'achat. Moi, je suis fonctionnaire avec un point d'indice gelé, des pertes de pouvoir d'achat cumulées depuis 20 ans. Et donc, certains d'entre nous ont pu voter contre les idées de Marine Le Pen, mais c'est pas pour ça qu'on veut un gouvernement qui poursuive sa politique. La question sociale, elle a été peu présente dans la campagne, sauf vers la fin et grâce aux luttes. Et donc, c'est important de la remettre dans le paysage parce que la question sociale, c'est la question de notre vie quotidienne, au travail, chez nous, à l'école. Et puis après, la question des services publics aussi, des maintiens de services publics qui sont dans notre pays quand même le symbole de notre capacité parfois à lutter contre des inégalités sociales qui se creusent, qui sont très fortes et qui pèsent beaucoup sur la société française.
Marie enseignante avec Fabien Cazot. Et puis cette information politique concernant la polémique autour des frais de mandat de Coralie Dubost, la députée LREM annonce son retrait de la vie politique dans un communiqué sur Twitter après la polémique sur sa gestion humanitaire de ses collaborateurs, sur sa gestion humaine pardon, de ses collaborateurs et de ses frais de mandat. Coralie Dubost, présidente déléguée du groupe LREM à l'Assemblée, a été épinglée par un contrôle de la déontologue de l'Assemblée nationale. Il est notamment question de dépenses vestimentaires mensuelles selon une fourchette allant de 1500 à 2000 euros. Coralie Dubost ajoute qu'elle ne sera pas candidate à sa réélection. L'actualité à l'étranger, en Ukraine, les évacuations de civils retranchés dans l'usine d'Azovstal à Mariupol se poursuivent. L'ONU indique qu'une opération d'évacuation est en cours, en coordination avec la Croix-Rouge. La nuit dernière, un groupe de civils avec des femmes et des enfants a pu sortir du complexe sidérurgique d'Azovstal. Au total, selon le président ukrainien Zelensky, une centaine de civils se dirigent vers le territoire contrôlé par l'Ukraine. Au nord du pays, à Irpin, près de Kiev, la ville réalise le cauchemar et les atrocités vécues par la population lors de l'invasion russe. Certaines familles ont commencé à enterrer leurs morts. C'est un jour particulier, ce dimanche, en Ukraine. C'est la fête des morts, la Toussaint ukrainienne, où chacun se rend au cimetière. Une Toussaint pas comme les autres. À Irpin, envoyé spéciaux, Eric Audra, Mathilde Dehimi.
Sacha se penche sur un monticule de terre à peine retourné. La croix orthodoxe est décorée de branches de sapin et de fleurs artificielles. Son beau-père est mort le 19 mars.
C'est mon étage, papa.
Un obus a touché son appartement, le souffle l'a projeté et il a chuté de 7 étages.
Sacha dépose un verre de vodka et des bonbons sur la tombe. Pour la Toussaint ukrainienne, on prie ainsi pour l'âme des morts.
Ici, il y a déjà la tombe de ma mère et de beaucoup d'amis. Mais de voir toutes ces tombes nouvelles, on n'a jamais vu ça. C'est vraiment terrible. Je n'ai pas de mots. Pas de mots.
Au bout d'une allée, Irina s'arrête, tétanisée par la peur des mines, mais le cimetière a bien été sécurisé.
Quelle tragédie. C'est une Toussaint tragique, tous ces morts civils. Il faut absolument arrêter les actions militaires. Trop d'innocents sont morts en vain.
Larissa a passé 3 semaines enfermée avec sa famille dans un abri. Elle est encore traumatisée, mais elle n'aurait raté cette fête des morts pour rien au monde.
Cette année, il y a moins de monde. Beaucoup ont fui quand les soldats russes nous ont occupés. Ils ne sont pas encore entrés.
Les Russes sont partis, insiste Larissa. On tremble désormais dès qu'il y a du silence, car après, on craint toujours une explosion.
En France, en Guadeloupe, après les précipitations exceptionnelles qui ont touché Pointe-à-Pitre et la région dans la nuit de vendredi à samedi, des inondations qui ont fait 2 morts et une 3e personne est portée disparue, emportée par les eaux. L'eau est redescendue, la vie reprend son cours et la vigilance a été levée par Météo France. Henri Durimel, le maire écologiste de Pointe-à-Pitre.
L'eau est descendue et
les citoyens qui étaient bloqués dans leur domicile, dont les logements avaient été inondés, ont pu sortir de chez eux et la vie semble reprendre son cours. Les dégâts sont très importants et surtout sur les véhicules, puisque tous les parkings ont été inondés et les véhicules étaient recouverts d'eau jusqu'aux portières. Donc les gens réclament déjà la déclaration d'état de catastrophe naturelle pour s'assurer que ils seront couverts par leur police d'assurance. Fort heureusement, les dégâts humains sont plus limités que ça. La pluie est tombée très fort et pendant très longtemps, du coucher du soleil jusqu'à l'aube. Et on n'avait jamais vu ça. C'est vraiment une circonstance quasi cyclonique, puisque habituellement, on est habitué aux averses. Mais là, c'était particulièrement intense.
Henri Durimel, maire de Pointe-à-Pitre sur France Info. Le 1er mai, on y revient, une date qui annonce aussi des changements. Le SMIC et le salaire des fonctionnaires les moins bien payés augmentent à partir d'aujourd'hui. Le prix de certaines cigarettes baisse et on pourra payer ses billets de train en chèque vacances plus facilement. Autre changement à partir d'aujourd'hui, les voitures neuves, elles devront être équipées d'une boîte noire pour mieux comprendre et réduire les accidents de la route. Et pour les prisonniers aussi, le 1er mai marque une avancée dans leur droit du travail. La réforme du statut des travailleurs détenus entrent en vigueur aujourd'hui dans les établissements pénitentiaires. Contrats d'emploi pénitentiaire, droits sociaux, des changements essentiels pour le travail en prison dans l'Ouen le Jeune.
Jusqu'à présent, tout se passait exclusivement entre le détenu et l'établissement pénitentiaire qui signait ensemble un acte d'engagement, et ce même si la personne détenue était amenée à travailler pour un opérateur extérieur. Désormais, l'affectation sur le poste pourra relever directement de l'opérateur qui signera un contrat d'emploi pénitentiaire avec le détenu. Il s'agit de rapprocher le travail en détention de ce qui existe à l'extérieur pour favoriser la réinsertion et limiter la récidive. La durée de la relation, de la période d'essai, la nature du travail et la rémunération sont inscrites dans le contrat. Une rémunération dont le seuil minimal reste inchangé, entre 20 et 45% du SMIC horaire. La réforme permet également l'ouverture des droits sociaux, cotisations à l'assurance chômage ou encore congé maternité. L'administration pénitentiaire garde malgré tout un œil sur ce qui se passe dans ses murs. En cas de procédure disciplinaire, le chef d'établissement peut déclasser le détenu ou le désaffecter. Cette réforme est saluée, mais timidement, par l'Observatoire international des prisons qui dénonce une rémunération toujours indécente et appelle de ses voeux la reconnaissance des droits collectifs en détention, au premier rang desquels les droits syndicaux et de grève.
Nolwenn Lejeune. Régine, chanteuse, reine de la nuit et noctambule inépuisable, est morte aujourd'hui à l'âge de 92 ans. Elle a chanté du Gainsbourg, du Barbara. Elle s'est produite sur les plus grandes scènes. Régine, également femme d'affaires, a régné sur plus de 20 boîtes de nuit dans le monde entier, dans le Palace, l'un des temples de la nuit parisienne, mais qui, à la suite de plusieurs démêlés judiciaires liés à la consommation de drogue, a dû fermer ses portes en 1996. Régine, la chanteuse culte de la Grande Zoa, s'est éteinte paisiblement ce matin. Stéphane Capron.
Les vies de Régine ont été multiples. Comédienne, chanteuse, femme d'affaires, elle a fait danser pendant plus de 30 ans dans ses 18 clubs les plus grandes stars du monde, ce qui lui a valu le surnom de la reine de la nuit.
C'est un titre qui me plaît pas beaucoup, qu'il a fallu que j'accepte, parce qu'effectivement je régnais sur tout ces personnages diaboliques, sympathiques, antipathiques. Les antipathiques, je m'arrangeais pour les sortir.
Son goût pour la fête lui vient de son père. À la Libération, il ouvre un café à Belleville. Régine découvre le jazz, le bebop, elle devient disquaire, barmaid et ouvre sa première boîte en 56 avec ce don de rassembler autour d'elle la jet set. Elle prend des cours de chant, enchaîne les tubes et devient l'une des icônes de la communauté gay avec la Grande Zoa.
C'est un grand tube. De cette chanson est sortie par Aznavour, comme ils disent, de Sardou, est-ce une maladie? Parce que c'était à la mode de parler des garçons qui étaient un petit peu féminins, mais c'était des chansonniers. Là, c'est devenu des grandes chansons.
Il y en a qui marmonnent que la Grande Zoa, ce serait un homme, on dit ça.
De la chanson réaliste au répertoire plus léger, Régine a su s'adapter à toutes les époques, comme celle du disco en 79, lorsqu'elle reprend en français « I Will Survive » de Gloria Gaynor et laisse à la postérité un tube indémodable.
Régine, morte aujourd'hui à l'âge de 92 ans, il est 19h14. La page sport de cette édition. Bonsoir Vincent Pellegrini.
Bonsoir Frédéric.
Le championnat de Ligue 1 touche à sa fin et aujourd'hui les Girondins de Bordeaux jouaient un match décisif pour le maintien et ça s'est mal passé pour Bordeaux.
Oui, les Girondins de Bordeaux avant-dernière recevaient l'OGC Nice. Bonsoir Guillaume Reichler.
Bonsoir Vincent, bonsoir à toutes et à tous.
Et c'est une nouvelle désillusion pour les Bordelais, défaite 1-0.
Défaite 1-0, but niçois marqué par Andy Delors à la 74e minute. Les Bordelais ont un pied et quatre orteils en Ligue 2. Les Bordelais comptent 4 points de retard sur Saint-Etienne, 18e, comptent 6 points de retard sur Clermont, 17e. Il reste 3 journées, soit 9 points à prendre d'ici la fin de saison. Il n'y a pas eu l'étincelle attendue pour aller chercher cette victoire obligatoire pour encore espérer se maintenir en Ligue 1. Il y a eu la domination niçoise tout au long du match. Les Niçois prennent les 3 points et gardent le rythme dans la course à l'Europe avec Rennes et Monaco. Les Bordelais, eux, sont quasiment condamnés à la Ligue 2.
Oui, Nice qui est 5e du classement après cette victoire à Bordeaux.
Alors, autre match ce soir, et c'est un choc, le choc des Olympiques. L'OM reçoit l'OL.
L'Olympique de Marseille, 2e du classement. L'Olympique lyonnais décevant 8e. Bonsoir Nicolas Perronnet.
Bonsoir Vincent.
En direct du stade Vélodrome. C'est un match à fort enjeu pour les deux équipes.
Oui, comme souvent d'ailleurs dans ces Olympicos, souvent tentés de gros enjeux. C'est le cas évidemment ce soir pour l'OM dans sa fin de saison marathon entre la Coupe d'Europe, la Ligue Conférence et cette deuxième place à préserver en Ligue 1. Alors les Marseillais ont un joker, 3 points d'avance sur Rennes et Monaco qui ont gagné ce week-end, mais une défaite relancerait cette course à la Ligue des Champions. Et puis de l'enjeu aussi pour l'Olympique lyonnais, sans doute l'une des dernières chances de rester dans la course à l'Europe et de sauver la saison. L'OL 8e, vous l'avez dit, à 8 points du top 5. Donc oui, de l'enjeu ce soir pour les deux Olympiques, même si on va dire que les Lyonnais ont sans doute davantage à perdre que les Marseillais.
Alors les rapports entre les deux clubs sont plutôt tendus. Le match aller en novembre, on s'en souvient, avait été particulièrement houleux.
Ouais, Marseille-Lyon, c'est jamais un match comme un autre. C'est devenu vraiment le classique d'ailleurs du championnat pour de bonnes et parfois effectivement de mauvaises raisons. On se souvient de ce match aller, de ce jet d'une bouteille d'eau venant des tribunes sur le Marseillais Dimitri Payet. Il y a une grosse rivalité entre les deux clubs. Alors ce soir, les supporters lyonnais ne seront pas au Vélodrome. Ils sont interdits de déplacement. La direction de l'OM a communiqué auprès de ses supporters pour appeler au calme, pour rappeler aussi que l'OM finalement est toujours en sursis. Une sanction d'un point au classement en cas de débordement. Et on attend ce soir beaucoup de monde, beaucoup d'animation. Le groupe des South Winners qui fête ses 35 ans, ce groupe de supporters est arrivé à pied depuis la tombe de Bernard Tapie avec feu d'artifice. Une chaude ambiance ce soir, Vincent, au Vélodrome qui va faire le plein. 64 000 spectateurs attendus.
Merci Nicolas Perronnet. OL coup d'envoi à 20h45.
On passe au rugby et une déception. Pas de grand chelem cette année pour le 15 de France féminin, mais l'équipe, les Bleus, vont se tourner vers la Coupe du Monde.
Oui, les Bleus ont été dominés hier par l'Angleterre 24-12 dans cette finale du tournoi des Six Nations. Malgré cet échec, les joueuses tricolores rêvent toujours d'un sacre mondial cet automne en Nouvelle-Zélande. Fanny Echevestri.
Dès hier soir d'ailleurs, les Françaises, à l'image de l'expérimentée Jessie Trémoulière, réfutaient le terme de coup d'arrêt avant la Coupe du Monde.
Les Anglais, elles ont quoi de plus que nous. On est des joueuses de rugby, on fait ça tous les jours. Voilà, c'est que partie remise, j'ai envie de dire. Il faut qu'on grandisse encore de ce match et ça se finit pas à Jean Daugé. Il y a encore une belle compétition derrière qui arrive et on aura des stages.
Fait notable, effectivement, pour la première fois, les Bleus vont bénéficier d'une longue préparation avant le Mondial. Elles se retrouveront dès le mois d'août, un temps qui doit leur permettre de régler les problèmes de discipline affichés hier et de trouver un peu plus d'automatisme et d'assurance. Le responsable sportif du 15 de France, Thomas Darac, se veut là encore confiant.
Il ne manque pas grand-chose. Il y a une maturité à trouver pour aller chercher ce dernier palier, mais un fatalisme certainement pas. En gagnant le tournoi en 2014, on se voyait en ligne droite pour une Coupe du Monde en France. Les Anglaises ont levé le trophée. Nous, on s'en est resté à la troisième place. Donc voilà, on sait qu'on a une équipe qui a beaucoup de qualité.
Et oui, une certitude, le talent est là. On pense notamment aux révélations de ce tournoi, comme l'infatigable Madou Soufal ou les flèches Chloé Jacquet et Émilie Boulard.
Cette Coupe du Monde de rugby débutera le 8 octobre et les Françaises affronteront les Anglaises lors des matchs de poule. Ce soir, dernier match de la 24e journée du top 14. L'Union Bordeaux-Bègles reçoit Toulon et en cas de succès, les Girondins prendraient la tête du classement. Fabio Quartararo, 2e du Grand Prix d'Espagne cet après-midi derrière l'Italien Francesco Bagnaia, une deuxième place qui permet aux pilotes français de prendre seul la tête du championnat du monde.
Et on va maintenant s'intéresser à un phénomène, Vincent, de plus en plus inquiétant et fréquent dans le football amateur, les violences verbales et physiques envers les arbitres. La Fédération française de football constate une recrudescence ces derniers mois sur les terrains avec un dernier incident en date particulièrement marquant. Un jeune arbitre a été tabassé lors d'un match de Régional 2 en région Rhône-Alpes. Des violences souvent filmées et relayées sujet sur les réseaux sociaux, ce qui permet de retrouver et de sanctionner leurs auteurs. C'est le long format de ce soir signé Emma Sarango.
Ce dimanche-là, Théo est particulièrement enthousiaste. Cet étudiant amiénois, arbitre depuis moins d'un an, officie pour la première fois sur un match de jeunes de 17 ans.
La fin du match se finit, un joueur se met vraiment en face de moi et me dit que sale con, je ne sais pas arbitrer, enfin bref.
Immédiatement, Théo sanctionne, carton rouge pour le joueur. C'est alors que la mère se précipite, gifle Théo à deux reprises et tout s'enchaîne.
Il y a quelqu'un qui me saute dessus en me donnant des coups de poing sur le derrière de la tête. Et à un moment donné, je me fais pousser violemment. Et c'est à ce moment-là que je tombe violemment à terre, je me prends des coups.
9 heures aux urgences, 4 jours d'ITT, et pourtant Théo décide de poursuivre l'arbitrage. Mais selon une enquête de la fédération, la violence est la première raison invoquée par ceux qui arrêtent. Pour tenter d'enrayer ce phénomène, Rudy Buquet, arbitre en Ligue 1, se rend régulièrement dans les clubs, comme ce jour-là à Saint-Just-en-Chaussée dans l'Oise.
On va vous mettre dans la peau d'un arbitre.
Une vingtaine de jeunes de 13 à 17 ans participent à l'atelier.
Le carton bleu, je siffle. Coup franc indirect, penalty. Si c'est le jaune, ça mérite une sanction disciplinairement. Et si c'est rouge, et je dois exclure le joueur.
Première vidéo extraite d'un match de Ligue 1. Un contact entre un défenseur et un attaquant qui chute.
C'est jaune, c'est jaune.
Non, il n'y a rien du tout.
Il fait opposition.
Des jaunes, des rouges, les petits joueurs sont divisés et finalement...
Le contact est régulier, donc aucunement on va le sanctionner.
Maxime et ses copains sont presque impressionnés.
C'est compliqué, tous les petits détails qui font qu'on doit siffler ou pas et je m'y reprendrai deux fois pour aller gueuler.
Et pourtant, à la fin de la séance, le doute subsiste quant à l'intégrité de l'arbitre.
Vous avez déjà été payé en mode de... le club il paye l'arbitre.
Chaque arbitre est indemnisé par les...
Non mais pour gagner le match.
Depuis plus de 15 ans, la loi donne aux arbitres une mission de service public. Toute agression est donc punie plus lourdement au pénal. La fédération, de son côté, prévoit des suspensions plus ou moins longues selon la gravité et elle a su réfléchir à alourdir le barème. Mais selon Eric Borghini, président de la commission fédérale des arbitres, la lutte contre ces violences est l'affaire de tous et notamment du football professionnel.
Quand nous observons malheureusement, comme ça a été le cas cette année, des désordres dans les matchs de Ligue 1 qui sont diffusés à la télé le dimanche suivant, être sûr qu'il va y avoir une petite flambée, alors pas forcément une agression, mais voilà, de la contestation, des incivilités.
Ainsi, depuis 4 mois, tous les joueurs qui intègrent un centre de formation, parmi eux donc les futurs pros, doivent suivre une formation initiale à l'arbitrage.
Les violences envers les arbitres dans le foot amateur, Emma Sarango.
Le journal de 19h, Frédéric Barrère.
À suivre la semaine prochaine et on ouvre la page agenda des temps forts de l'actualité de la semaine qui vient avec en politique un rendez-vous fixé samedi prochain. L'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon présentera ses candidats aux élections législatives, une liste élargie s'il y a union à gauche, à droite. Les Républicains se mettent en ordre de marche lors d'un conseil national. Auparavant, jeudi, on commémorera la catastrophe de Furiani 30 ans après l'effondrement de la tribune du stade avait fait 9 morts et 2300 blessés. Sur l'agenda international, à noter mercredi la visite en France du Premier ministre indien Narendra Modi à l'occasion des 75 ans des relations diplomatiques entre la France et l'Inde. Et puis jeudi, jour d'élection qui pourrait être historique en Irlande du Nord. Les Nord-Irlandais élisent leurs députés. Tous les derniers sondages donnent une victoire au Sinn Féin, ce qui n'est jamais arrivé jusqu'ici. Le parti prône une sortie du Royaume-Uni et un rapprochement avec la République d'Irlande. Correspondance Richard Place.
À Belfast, il n'y a plus de Premier ministre depuis 3 mois. Le DUP, mouvement unioniste majoritaire, a décidé de jeter l'éponge, une manœuvre politique pour essayer de ne pas perdre trop de terrain dans cette élection. Le cœur du problème, encore une fois, c'est le Brexit. Le protocole de sortie de l'Europe, signé par Londres et Bruxelles, est inapplicable en Irlande du Nord et donc partiellement appliqué. Tous les Nord-Irlandais s'en rendent compte et le DUP, qui avait fait confiance au gouvernement de Boris Johnson, s'estime floué. Pendant ce temps, le Sinn Féin gagne des voix et aborde ce scrutin avec le costume de favori. Il affiche clairement son objectif, organiser à terme un référendum pour quitter le joug britannique. Mais tout est compliqué, y compris le système de gouvernance. Si les nationalistes font le plus gros score, le Premier ministre sera issu de leur rang. Mais il faut un vice-premier ministre, choisi parmi les unionistes cette fois. Et là, la principale formation, le DUP, dit ne pas vouloir travailler avec son ennemi de toujours. Londres, Richard Place, France Inter.
Et on terminera la semaine vendredi avec un tout autre rendez-vous. Dijon, capitale du goût, la ville inaugure sa cité internationale de la gastronomie et du vin. Dans l'actualité, la semaine prochaine également, les cérémonies du 8 mai 45 et du plus petit village aux grandes villes. Tout doit être prêt pour les commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale et la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. C'est mon actu. Sandrine Houdin a ouvert son micro à Raymond Ancert. Et l'espoir de Raymond, c'est que ce 8 mai, avec la guerre en Ukraine, touche plus de Français qu'une poignée seulement de cheveux blancs d'anciens combattants. Raymond n'avait que 8 ans en 1945, mais il n'a rien oublié. Sandrine Houdin l'a retrouvé dans les locaux de sa section des anciens combattants de Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, devant un mur tapissé de photos qui continue de l'émouvoir.
C'est l'Arc de Triomphe et le dépôt de la gerbe sur le soldat inconnu.
Raymond, ces photos, ça, quand vous les regardez, ça vous fait quoi?
Ah, le poil qui s'irrite sur la peau.
Mais pardonnez-moi Raymond, mais vous aviez 8 ans le 8 mai 1945.
Je me rappelle d'entendre les bombes tomber. Quand les sirènes se déclenchaient, le départ aux abris, mon frère qui avait 7 ans de plus que moi, qui pouvait plus marcher parce qu'il avait mis ses deux pieds dans le même jambe de pantalon. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, on n'a pas de temps à attendre. Vous voyez, c'est des flashs qu'on a. Pour moi, le 8 mai, c'est les drapeaux aux fenêtres, les gens qui s'embrassaient.
C'est après l'Algérie, Raymond, que vous êtes rendu compte?
C'est-à-dire, j'ai mieux compris au décès de mon père quand il est parti. Qu'il fallait que je perpétue, disons, le souvenir de ceux qui sont morts. Moi, mon papa, il est revenu. C'est ceux qui ne sont pas revenus.
Fermez les yeux. L'homme qui commémore le 8 mai 45, le Raymond, quand il ferme les yeux, il pense à quoi?
L'oubli. L'oubli. Les gens oublient. C'est tout. On est des vieux schnocks, hein. Les anciens combattants, ils sont dans leur local, ils boivent le petit coup de temps en temps. Le 8 mai, ça rappelle rien du tout à nos jeunes.
Le hasard fait qu'hier, il y avait ma fille, des copains qui m'ont dit « On fait une cérémonie pour le Bataclan, ok, on y va. » Le 8 mai 1945, c'est nos livres d'histoire.
Je leur dis « Mais Bataclan, qu'est-ce que c'est ? » Qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire. Quand vous aurez, disons, mon âge, vos petits-enfants ou vos enfants, que penseront-ils du Bataclan? Que penseront-ils du Bataclan? Ils penseront la même chose que moi, je pense, des guerres 14-18, 39-45, comprend l'Algérie, comprend le Bataclan. Quand on sera parti, certains jeunes feront ce que moi j'essaye de continuer, le devoir de mémoire, c'est tout. Je marche, je suis actif, je suis vivant. Je suis vivant et eux, ils sont partis pour que je vive, c'est tout.
Raymond, c'est mon actu, Sandrine Houdin. Au générique de cette édition, un grand merci à Gilles Gaillard et Loïc Frapsos en régie qui m'ont aidé à préparer ce journal, avec Anne Patinec à la rédaction en chef, assistée de Swad Bellani et Rachid Zourdani. Merci à l'équipe et merci à vous d'avoir écouté ce journal. La météo dans un instant.
La météo avec Air France. Cet été, ciel dégagé vers plus de 1000 destinations pour partir en toute sérénité avec Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Jean-Michel Golinski.
Maintien d'un temps sec demain sur la plus grande partie du pays. En matinée, de fines pluies vont survoler la Normandie et la Bretagne. En journée, les averses d'évolution diurne ne vont concerner que le relief, avec à signaler des épisodes précipitants plus marqués qu'ailleurs sur la chaîne des Pyrénées. Sur le reste du pays, maintien d'un temps sec, mais souvent assez nébuleux, avec des éclaircies plus larges et durables l'après-midi au nord de la Seine. Les températures sous abri et en plaine seront largement au-dessus des gelées, avec en général 5 à 8 dans la moitié nord, 9 à 12 au sud. En journée, les maximales vont un peu augmenter au nord, légèrement baisser au sud. Il fera par exemple 15 à Brest et à Caen, 17 à Lille et à Alençon, 19 à La Rochelle, Paris, Bourges et Nancy, 20 degrés dans le quart sud-ouest, 22 sur le Dauphiné et 23 degrés pour le maximum attendu à Montélimar, Montpellier et Marseille.
Jean-Michel Golinski de Météo France.